the strap, whip the horse, and we ride it through desperado style. Now you sick the way I'm all spit to them horse, and you notice how I do it all the wow wow. And you don't want a problem, just get the kiss in the curb. See, you don't want me popping, just get the kiss in the curb. I don't care if you a trick, just get the kiss in the curb. Small think it's slick, just get the kiss in the curb. I'm saying.
I look a man in his face eye to eye and wonder why. I don't wanna die. I hope you don't wanna die. So why bring it my way?
Common sense in a ghetto in Chicago.
Yo, Taxzilla, you know I ain't the type to play killer, but this day still arrives in my mind like a fight. A damn Thursday night and plans to be out till the night serve daylight, but it ain't happen. Rapping to myself cause it wasn't the one to rap to. This feeling came to me like somebody looking at you. It was these cats who me and my crew boxed against. Got a spot in a Glock, now the nigga got some confidence cause I'm common sense and I rap consciousness. He was prompt to diss, mad cause my guy used to knock his bitch. I can sense he was trying to bring it, but I wasn't ready to receive it. In fact, I make him leave it before he could achieve it. As we rove through the streets of Cottage Grove and reach the stoplight behind me, he flashlights bright, saw the cop like I'm thinking Tupac, like as he got out the car. I was taught only to fight in defense on the will of Allah, and ain't no talking when it's time is far. So before he popped some shit, I did the opposite and stole him. Back his lady tried to hold him like Big Pun, I stole him and told him I ain't a shooter, I just punch a lot. Between blows, this Vic tried to up his Glock. His brother watched Spook like Big Daddy on Teenage Love. He got buked to my tape, I seen they had dug, got his dome in a hug. Muffins brought back with one hand. Tried to pop, it must have been a knife, cause the gun jam. Unplanned, I disarmed this trick. Nigga, pistol whipped his ass. His ladies, I was prominent. Holland 87, rain dominant. Needed a fight that night. Me and my woman had an argument.
Guess I should tell you a little something about myself.
I bang with the big boys, those who hold names. I bang with the big boys, those who hold names.
I bang. Peace, y'all. Common sense and high tech.
I bang with the big boys, those who hold
names. A real niggas.
Walk through the peas and jump from my own shadow. The mountain bike niggas will clap you, try to haggle for that chain or that bracelet or that watch or that ring. It's off the chain, brace yourself and watch out when it rains. Gum wrappers in my mouth folded up like fronts. I even took them shits out when I rolled up my blunts. I wanted to be like the dealers, feared like the killers, fresh like the boosters, attitude what the deal is. Niggas ask me where I'm from and I'd say Brooklyn proud. Wore my Timbs all year round and my kush was loud. And the police, they did the same shit y'all seeing now, except camera phones wasn't now.
Thank you. Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4. Longtemps je me suis couché de bonheur, Francis Gavel au micro. Babix, à la ville David Babin, a toujours été un artiste de compagnonnage. On pourrait citer ceux avec Camélia Jordana ou Raphaël Nanader, dont il réalisa les premiers albums, mais aussi avec André Mainviel et Thomas de Pourquerie, avec lesquels il rendit, sur scène et sur disque, un hommage pudique et enjoué à Nougaro. Encore les poètes, de Baudelaire à Aimé Césaire, de Jean Genet à Jacques Kerouac, dont il mit en musique les textes. Sans oublier, évidemment, la déflagration sonore et lyrique que fut la trilogie Omaya, dédiée à Omaya Al-Jbara, combattante irakienne tombée face à Daesh, et auquel s'associèrent Dorothy Mounianeza et Hershit Shep. Mais de tous ces compagnonnages, il en est un, depuis les premiers pas musicaux de l'artiste, de ceux-là même qui ne s'exercent pas encore sous le statut de musicien professionnel, qui s'est inscrit dans l'épreuve du temps. Celui avec, comme le nomme Babix, ce grand orque, en référence à la livrée noire et blanche du mammifère marin, qui de maison en maison a toujours partagé son existence, le piano. Avec une maison, avec un piano dedans, son nouveau disque, sorti juste hier, vendredi 22 septembre, on notera, clin d'œil éphéméridique, que cette date coïncide avec celle de la naissance du musicien. Babix laisse donc ses doigts partir en balade sur le clavier et, joueur tendrement expiègle, repousse ainsi les murs de la maison. Alors impression musicale et impression voyageuse se mêlent au gré des titres de l'album. Escapade en Argentine pour y danser une milonga, séjour en Louisiane sur fond de cadence ferroviaire, ragtime et blues, soirée à Venise pour un carnaval à l'ambiance étonnamment boogie-woogie. Et puis soudain, contre toute attente, dans son disque 100% instrumental, devenu au passage album du mois pour cette rentrée de 26e saison de l'émission, c'est comme si se laissait deviner la voix de celui qui, depuis ses débuts, réenchante la chanson française, et sur ce ballerine, écouté en ouverture de chronique, l'auditeur de se laisser alors aller à entendre le chanteur lui suggérer, en quelques vers, en écho à la fragile mélodie du piano, studio de répétition et douleur de la danseuse. Petite ballerine fait des pointes, pointe pointue, jambes tendues, rayon de soleil est tutu, petite ballerine s'évertue. Et on notera, même si la date est un petit peu lointaine, que le 20 décembre prochain à la Maison des Métallos, eh bien, dans le 11e, eh bien, Babix sera seul au piano sur scène, mais un concert où chaque résonance d'accord, chaque vibration de corde seront rendues visibles par les créations visuelles du scénographe Adrien Mondeau. Et puis comme donc une maison avec un piano dedans et notre album du mois, on en réécoutera évidemment un deuxième extrait en toute fin d'émission. Mais il est temps maintenant de passer à notre rituel tant attendu, en plus avec une rentrée cinématographique conséquente, en films qui peut-être vont diviser la rédaction des fiches du cinéma. Et donc, il est temps pour moi de donner la parole à Thomas Fouet et de lui souhaiter la bienvenue. Bonjour Thomas.
Tu le rappelais Francis, je le précise pour celles et ceux d'entre vous qui nous écouteraient en podcast. J'espère que vous allez bien en cette rentrée, que vous avez passé un bel été. Ce soir, Amiens reçoit Valenciennes pour le compte de la 7e journée de Ligue 2. Objectif, rester sur le podium. Demain en Première Ligue, Arsenal recevra Tottenham. Objectif, écraser l'ennemi héréditaire. Et lundi soir en National, ce sera au tour de Sochaux d'accueillir Rouen. Objectif, remettre des étoiles dans les yeux de Clément Deléchaud. Oui, car je vais continuer cette année à vous donner des nouvelles des équipes que vous ne suivez sans doute pas dans un sport qui probablement ne vous intéresse pas. Par ailleurs, il est vrai que nous sommes là pour parler de cinéma. C'est donc un tour d'horizon, pardon, de l'actualité des sorties en salle que nous vous invitons. Pour cela, et autour de cette table, une configuration qui a fait ses preuves, j'ai nommé Francis Gavel, qui, une fois encore, se joindra à nous dans quelques instants, et je le remercie. 26e saison, donc, pour Francis Gavel, à l'antenne de Radio Libertaire, pour cette émission. C'est déjà un an de plus, je ne sais pas s'il le savait, qu'Interville. Tu es donc en train d'entrer dans la légende des médias francophones, Francis. Pour comparer évidemment ce qui est comparable. Et puis, autour de cette table, deux membres émérites de la rédaction des fiches du cinéma, Clément Deléchaud. Bonjour Clément.
Bonjour Thomas, moi aussi ma 26e saison.
Pas loin, presque. Et Florent Boutet. Bonjour Florent.
Bonjour.
Quelle fut donc difficile à faire cette sélection, tant l'actualité est riche, vous ne m'entendrez pas dire ça tous les mois, mais il est vrai que depuis quelque temps, nous sommes du moins c'est mon opinion, plutôt gâté en termes de sortie en salle. Il nous a donc fallu faire des sacrifices. À regret, nous ne parlerons pas du procès Goldman, le film de Cédric Kahn, que j'ai pourtant trouvé très beau et qui, se déroulant en huis clos devant la cour d'assises de la Somme, censément dans l'enceinte du tribunal d'Amiens, a, pour moi, qui y suis né et y ai longtemps vécu à Amiens, pas dans son tribunal, a bruissé d'un assourdissant hors-champ. Je sentais la ville au dehors. Nous ne parlerons pas non plus de Lost in the Night, le nouveau film d'Amat Escalante, dont d'ordinaire je goûte peu le cinéma, mais celui-ci m'a étonné. Pourquoi donc figurait-il en sélection Cannes première plutôt qu'en compétition? C'est un mystère. Et nous ne parlerons pas non plus d'Un métier sérieux, le nouveau film de Thomas Litti, ni d'Une année difficile, celui d'Éric Toledano et Olivier Nakache, pardon. Mais sachez que le cinéma sosdem macroniste sur les bords a de beaux jours devant lui. Nous en venons tout de suite au premier film de ce tour d'horizon des sorties en salle, avec un film qui, je le crois, je le pressens et je le sais même, risque de provoquer un certain débat autour de cette table. 10 ans après Abus de faiblesse, Catherine Breillat est de retour avec L'été dernier, adapté d'un film danois, Dronningen, de May El Touri. Le sujet en quelques mots, Anne, avocate spécialisée dans les violences sur mineurs, et Pierre, chef d'entreprise, sont les parents aisés de jeunes jumelles. Ils accueillent chez eux Théo, fils aîné de Pierre, issu d'un précédent mariage. Un jeu de séduction s'instaure entre Anne et Théo, qui finissent par passer à l'acte, je ne vous en dis pas plus. À partir d'un tel argument, c'était, semble-t-il, entendu. Deux pistes s'offraient à Breillat, pile une revisitation de Théorème, un home invasion à feu doux, une guerre de position entre chambre, salon et pelouse inondée de soleil, au fin d'une atomisation de la vie bourgeoise, face une démonstration implacable de la prédation des adultes sur les esprits et les corps adolescents, une exploration de ses ressorts, accouchant d'une condamnation ferme. Dans un cas comme dans l'autre, la bienséance serait sauve et tout ce souffre dégagé ne l'aurait pas été en vain. Le marxiste aurait sa vengeance, le moraliste, son PowerPoint de sensibilisation. Acte manqué. Je me cite moi-même dans les fiches du cinéma. De racisme, il sera peut-être question dans un autre film un peu plus tardivement. Je me cite moi-même dans les fiches du cinéma, car sinon, encore une fois, qui le fera? Mais nous sommes chez Catherine Breillat et l'affaire est plus délicate, évidemment. Dans le rôle d'Anne, Léa Drucker, dans celui de Pierre, Olivier Rabourdin, et pour interpréter le jeune Théo, Samuel Kircher. Je précise enfin que le film est en salle depuis le 13 septembre. Je n'irai pas jusqu'à dire que nous avions convenu d'un tour de parole, mais je crois que Florent, tu étais prêt à ouvrir les hostilités.
Ouais, je peux ouvrir les hostilités, même si je suis un peu le grognon de service ce matin. C'est un film qui plaît beaucoup parce qu'on retrouve donc Breillat, comme tu l'as dit, 10 ans après Abus de faiblesse. Et je pense que Breillat, c'est quelqu'un qui existe donc dans le cinéma français depuis une cinquantaine d'années. Ce qu'on ressent d'ailleurs, moi, ce que j'ai ressenti péniblement dans le film, et qui était pas destiné à faire un nouveau film, j'ai envie de dire, parce qu'elle a eu, comme beaucoup de gens le savent, elle a eu un accident cérébral, je crois, il y a une quinzaine d'années de ça, qui l'a rendue hémiplégique, si je me trompe pas. Et donc, bon, faire du cinéma dans ces conditions, c'est pas quelque chose de forcément évident.
Mais elle avait d'ores et déjà signé Abus de faiblesse après.
C'était déjà le cas pour Abus de faiblesse. C'est quelqu'un qui continue elle est en ce moment, elle a une rétrospective à la Cinémathèque française où elle continue à venir, elle continue à s'exprimer beaucoup. C'est quelqu'un qui lâche pas la rampe et qui continue son art, et ça c'est très louable. Et si je peux commencer quand même par dire des qualités pour montrer que je suis pas dans le rejet total du film, elle habite son film déjà, elle creuse véritablement son œuvre, le sillon de son œuvre, parce que ça ressemble beaucoup à ce qu'elle fait. C'est très étonnant quand même de voir que c'est un remake d'une certaine façon, et même si apparemment le film danois était beaucoup plus explicite, beaucoup plus montrait beaucoup plus le sexe de façon explicite, et mais à quel point elle s'empare de quelque chose qui lui ressemble pour creuser son sillon et pour continuer son œuvre comme ça. C'est un film qui est extrêmement complexe, extrêmement dense. Et d'ailleurs, j'entendais dans d'autres médias des gens dire que on pouvait très bien avoir une interprétation comme une autre, parce que le film donne à manger un petit peu dans les deux sens. Pour mettre les pieds dans le plat, toute l'interprétation MeToo qu'on pourrait avoir sur le fait que elle met en scène une prédatrice, ce qui est quand même assez rare, sans le faire de façon, on va dire, pain béni pour tous les masculins du monde, et elle donne vraiment de la subtilité, de la nuance dans le propos, ce qui fait qu'on peut l'interpréter dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire que le personnage joué par Samuel Kircher, donc, a quand même 17 ans. on est quand même dans un inceste. On est dans quelque chose de très grave qui tombe donc, qui est un crime, pour dire les choses telles qu'elles sont.
Et puis, évidemment, le rapport d'autorité, a priori de parentalité qu'elle exerce sur lui, le fait qu'elle est au courant de la façon dont ça fonctionne parce qu'elle est elle-même avocate spécialisée dans le droit des enfants et spécifiquement des affaires de cet ordre-là.
Mais voilà, le truc, c'est que le personnage de Samuel Kircher, on peut le prendre comme une victime. Le film donne totalement la possibilité d'analyser les choses comme quelqu'un dévasté par sa belle-mère à la fin du film. Et il y a l'autre interprétation, la perversité même de ce récit, c'est qu'on peut aussi l'interpréter comme un chagrin d'amour, comme quelque chose qui est beaucoup plus beaucoup moins connoté dans le crime. Mais à la fois, moi, c'est quelque chose qui me dérange énormément, parce que j'entends des discours, alors je sais que je vais pas faire le commentaire du commentaire, c'est pas forcément la chose la plus intéressante, mais quand j'entends parler d'une grande histoire d'amour, ça me dérange quand même profondément. Et que raconte le film? Justement, tu le dis, on raconte l'histoire d'une avocate qui est spécialisée dans les affaires sur mineurs, et qui est extrêmement impliquée, justement, dans la suite. Qu'est-ce qui se passe après le procès?
Ouais, fait le service après-vente.
J'osais pas le dire parce que le terme est, voilà, il y a un peu, mais on l'a tous à l'esprit, d'une certaine façon. Ouais. Et elle va visiter ses enfants placés, elle va voir qu'est-ce qui se passe après. Et le film le montre bien, il insiste bien sur ça. C'est quelqu'un de très impliqué dans son métier. Et pourtant, il y a quelque chose de complètement bicéphale dans cette histoire, c'est que c'est elle qui va vers ce jeune homme et qui provoque leur relation.
Parce qu'on peut supposer que les outils dont elle dispose dans sa vie professionnelle lui permettent, paradoxalement, d'exercer une domination dans le milieu domestique.
De s'en sortir sans encombre, en tout cas.
Même si, prendre
l'escalier de secours.
Même si la scène avec l'avocat, quand elle se fait convoquer, d'ailleurs une scène qui est autant réussie que ratée, à mon sens, elle semble tomber des nues quand, justement, il prononce le nom de l'article de loi qui spécifie ce que c'est que l'inceste. Et notamment que, parce qu'on peut ne pas le savoir, hein, on s'imagine peut-être que l'inceste, c'est les parents de sang. Non, c'est avant tout une question d'autorité. Et donc, elle est pas liée par le sang avec ce jeune garçon, c'est sa belle-mère, mais on tombe sous le coup du fameux article de loi, il faut quand même le rappeler. Et au moment où on lui dit ça, elle a l'air de tomber des nues quand même. Elle a l'air de tomber des nues alors qu'elle ne peut pas l'ignorer, à aucun moment. Donc, je sais pas, moi, l'espèce de complaisance sur la perversité du film que j'entends à droite à gauche me dérange quand même beaucoup. C'est le fait qu'on puisse se gargariser du fait que Breya va choisir... Alors, Samuel Kircher, il faut rappeler qui c'est le frère, donc le petit frère de Paul Kircher qui
était censé... Dont il sera question petit peu plus tard dans cette émission, puisqu'on évoquera le règne animal.
Qui est à peine plus âgé que lui et qui, en quelque part, était censé faire le film et qui délègue son petit frère pour y aller, qui est pas du tout acteur, qui avait pas de vocation à l'être, qui est plutôt technicien, je crois, enfin, qui étudie dans le cinéma, et qui est choisi aussi parce qu'il a un côté poupon, qu'il a des grosses lèvres roses, qu'il a un peu ce côté enfantin, et elle le filme comme ça. Moi, je sais pas comment ça peut ne pas déranger et comment on peut tourner autour d'une certaine fascination autour de ça. C'est quand même très, très, pour utiliser un néologisme qui me plaît pas du tout, mais très malaisant. Et alors, j'imagine que mon camarade va rebondir là-dessus.
Je vais essayer de défendre.
Je vous laisse la parole d'ailleurs. Mais...
Merci. Il y a un vrai génie du mystère dans ce film, je trouve. C'est que devant le film, on forçait de constater que c'est un des films finalement les moins évidemment sulfureux de Breya, l'un des moins sexués, et c'est sans doute effectivement le plus pernicieux, sans doute aussi à travers le côté altéré d'un remake d'un film que j'ai vu, le film danois qui a un truc nul, Dogma, enfin à 100% post-dogma qui n'a aucun intérêt. Ce qui est effectivement, je pense que c'est impossible de ne pas penser à Théorème, ne serait-ce que parce qu'il y a quand même ça d'un point de vue onomastique, quoi, c'est quand même le prénom du jeune homme. Et Théo, Rem, c'est l'anagramme de mère. Enfin bon, t'as les trucs, c'est évident. Ce que je trouve quand même effectivement très beau, c'est tout ce rapport qu'a effectivement toujours creusé Breya sur les rapports de domination bourgeois, sur la facilité qu'ont les personnes qui possède justement les outils, qui maîtrise, qui graisse les rouages de ce rapport de force, de toujours se sortir des situations les plus apocalyptiques, puisque le film effectivement passe toute la première partie à gérer cette séduction comme une descente aux enfers, vraiment en cercle concentrique, qu'on se rapproche de plus en plus au sein du foyer à travers les images vraiment d'Épinal. On emmène les jeunes filles du couple qui sont adoptées, qui est aussi finalement un trope bourgeois. On les emmène au tennis, on conduit en décapotable, le père est absent. Et l'irruption de ce jeune homme, qui n'est pas du tout une irruption qui déroge au cliché, amène... rehausse vraiment cette violence bourgeoise, parce que le personnage de Léa Drucker, comme on l'a dit, maîtrise son sujet et passe son temps à redéfinir les règles du jeu, à redéfinir aux dépens de ce jeune homme le contrat social qui a été poussé, cette règle tacite de on ne le dit pas. Évidemment, on ne peut pas le dire, c'est le péché, on doit cacher cela, et finalement, chaque machination, puisque c'est finalement un film de machination bourgeoise, c'est-à-dire je jouis d'un produit, et à partir du moment où ce produit ne m'intéresse plus, je le rends impur, puisque elle va s'en sortir. Ça n'est même pas vraiment un spoiler, c'est-à-dire que c'est dès le début, on sait très bien qu'elle va s'en sortir, me semble incroyablement pernicieux et extraordinairement moderne. C'est-à-dire qu'elle a toujours, Bria a toujours une prise. Et je pense que même, c'est une prise, c'est une forme de préscience dans son cinéma, une prise sur le réel et sur les rapports de domination bourgeois. Effectivement, c'est difficile de faire abstraction de ce qui a pu sortir de Breya dans le dossier de presse, où, comme d'habitude, les cinéastes parlent très mal de leurs films, de toute façon.
C'est le sentiment que j'ai pu avoir en découvrant effectivement deux ou trois prises de parole de Breya récemment. J'ai presque décidé d'en faire ça.
Mais le film parle à travers elle, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de l'écouter. Ça, c'est une redéfinition de son cinéma, qui est effectivement quelque chose qui, par sans doute son âge, sa position dans le cinéma français, est forcément nettement plus cérébralisé, peut-être un peu à l'excès, puisque le film effectivement est très dense, et comme son sujet est particulièrement clivant, son côté... Son aspect finalement presque un peu lisse, ou en tout cas aseptisé, de ce décorum bourgeois, offre effectivement assez peu de prise et peu déconcerté. Mais pour moi, effectivement, et finalement, j'ai plein de... Enfin, nos avis peuvent finalement converger, simplement, c'est des questions, comme n'importe quel avis critique, des questions d'intensité, ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas.
Absolument, le truc, c'est que moi, le film, c'est pas un rejet ou un truc que j'ai envie de combattre, c'est juste un film qui m'indiffère énormément. Pour prendre le contre-pied de ce que tu disais, même si c'était pas exactement le fond de ton propos, mais moi, tu parles de modernité, des rapports de force, de la façon dont on monte la société bourgeoise. Déjà, j'entends de toutes parts les références à Chabrol et tout ça m'exaspère au possible, parce que j'ai l'impression que c'est le truc qu'on invoque à tout bout de champ dès qu'on parle de la société bourgeoise.
Non,
peut-être parce que personne n'arrive à le faire aussi bien que lui, et que le rappel incessant de cet état de fait, et quand un film le fait, approche un petit peu l'excellence de ce côté-là, on rappelle un petit peu les choses, mais est-ce qu'on est obligé de le faire systématiquement? Je trouve que ce systématisme est un peu agaçant.
Non, mais Chabrolien, c'est comme Romérien, à un moment donné, effectivement.
Oui, mais ça veut tout dire.
Ça n'engage que celles et ceux qui...
C'est exactement ça. Romère, c'est pareil, on le sait à toutes les sauces, alors que j'ai le sentiment qu'on passe un petit peu à côté.
Quelqu'un badine sur la plage et met les pieds dans l'eau, voilà, c'est Romérien, enfin bon, c'est le... strictement rien dire.
Mais au-delà de ça, oui, donc tu parlais de modernité. Moi, ce qui m'effare aussi dans le film, c'est la ringardise quelque part de l'expression. Ça, je sais que c'est quelque chose sur lequel on est un peu d'accord, sauf que toi, ça te dérange peut-être moins que moi.
Sur la question du langage, peut-être.
Ouais, la question du langage. Moi, j'ai l'impression d'avoir un adolescent de 17 ans, mais d'il y a 50 ans, en fait. C'est-à-dire qu'il parle, il a des façons de parler, des façons de s'exprimer qui sont pas du tout celles d'un ado contemporain.
C'est ce qui, pour moi, fait modernité. Ça aurait été beaucoup plus gênant que Breya, qui a 75 ans, essaye de faire parler un enfant, un adolescent, comme un adolescent actuel, alors qu'elle ne le sait pas. Donc cette modernité, c'est pas forcément d'être en prise totale avec la contemporanéité, vu que le film, effectivement, ne l'est pas. Simplement, il est moderne à partir des bases posées. Je trouve qu'il est moderne par rapport à ce qui est ensuite induit par la fiction, mais une fiction qui est effectivement dans ce rapport de machination, de domination bourgeoise, de consommation de la jeunesse, reste toujours plus d'actualité.
Premier débat très dense, je vous en remercie et je vous propose, pour nous reposer d'ores et déjà, de faire une petite pause musicale et puis on se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce programme, je vous le rappelle, très 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 chargé dans quelques instants sur les ondes de Radio Libertaire.
Je voudrais faire le tour du monde. Par les Indes, le Pacifique. Le Bosphore et les Amériques. Retrouver quelques personnages morts à mon âge. Le tour du monde. Des morts. Sur terre, en mer et dans le ciel. Je veux mettre un terme aux rumeurs.
De retour sur les ondes de Radio Libertaire 89.4, vous écoutez longtemps, je me suis couché de bonne heure, et à l'instant nous écoutions Le Tour du Monde par Jeanne Balibar, tiré de son premier album, Par Amour, qui fête cette année ses 20 ans. Petit clin d'œil et modeste hommage à l'écrivain Pierre Alféri qui en a signé les paroles et qui nous a quittés cet été, je vous le rappelle, à l'âge de 60 ans. Nous en venons au film suivant de ce programme, Le Gang des Bois du Temple. C'est le nouveau film de Rabah Ammer Zaimesh, l'auteur de Blade No. 1, Dernier Maquis et des Chants de Mandrin notamment. Le sujet en quelques mots, dans le quartier des Bois du Temple, à Clichy-sous-Bois, une bande d'amis s'improvise gangster et projette de braquer le convoi d'un riche prince arabe, sitôt dit, sitôt fait. Mais le prince décide de traquer les malfaiteurs. Je te cite Clément, dans les fiches du cinéma. C'est un film d'amour, ou qui du moins traque sans relâche ses manifestations les plus ordinaires. C'est un film de gangster, bien sûr, avec par-delà le formatage à la Robin des Bois, l'idée très belle que la violence a aussi son revers salutaire, comme une augmentation par la victime de sa connaissance du monde. C'est très joli, ça. C'est quasiment une comédie, ajoutes-tu, une mascarade où il faut jouer aux pauvres quand on a trop longtemps déjoué à l'être pour de vrai à l'affiche. Régis Laroche, Philippe Petit, Marie Loustalot et Kenji Meunier, et le film est en salle depuis le 6 septembre. Pour combien de temps encore? Ça, c'est une autre question. Si le film vous intéresse, si le débat qui suit vous passionne, n'hésitez pas à vous précipiter en salle le plus tôt possible. Qui veut ouvrir les hostilités? Allez, Francis, puisque tu es de retour avec nous.
Voilà. C'est vrai que... Alors, c'est vraiment un cinéaste, moi, avec lequel j'ai commencé un peu tardivement à m'intéresser à son parcours, ce qui est pas bien. Et je reconnais que, en fait, c'est les Chants de Mandrin qui m'ont amené vers lui, parce que effectivement, il y a ce côté justicier, et puis cette geste héroïque, et un justicier qui, dans la geste héroïque, prend aux riches pour donner aux pauvres. Et finalement, il y a quelque chose de ça aussi dans le film, je trouve. Bah, effectivement, ce gang comme ça est là pour prendre un très riche et pour essayer, eux, chacun à leur manière, d'améliorer leur quotidien. Après, moi, ce que j'aime bien dans le film, si je vais plus sur la forme, et ça va être assez facile de dire ça, comme je vous entendais dire, bah voilà, dès que c'est épuré, dès qu'on trempe les pieds dans l'eau, c'est Remer, bah là, dès que c'est épuré dans un polar, c'est Melville, quoi. Donc, effectivement, je n'y couperai pas, je dirai ça. Mais en même temps, ce que j'aime, c'est que il y a ça, et qui me semble très vrai, comme ça, les choses sont posées, sans beaucoup d'effets. Et à côté de ça, il y a ces scènes de groupe au café où les scènes prennent du temps et les personnages parlent. On a l'impression pratiquement d'être dans une improvisation. Ça pourrait être Piala, quoi, dans certains moments comme ça, où on a l'impression qu'on suit cette conversation au moment où elle arrive. Et je trouve que cet équilibre est assez joliment réussi. Les choses se répondent bien. Et puis que surtout, ces moments-là, en fait, permettent d'insister sur un personnage qui, en fait, introduit le récit. Et moi, j'ai presque envie de dire que le film, en fait, il pourrait porter aussi un autre titre qui serait le nom de ce personnage, et le film pourrait s'appeler Monsieur Ponce. Donc, qui est ce personnage comme ça qui introduit le récit, un personnage qui est un personnage solitaire, alors un peu à la samouraï de Melville, et qui, au début du film, perd sa mère, et donc se retrouve seul. Et je trouve qu'il y a un début de film absolument fantastique, alors à la fois très épuré en termes de forme, mais d'une émotion incroyable où. Tout est rentré, et puis d'un seul coup, les pleurs montent, et il y a comme ça quelque chose de évidemment très touchant, avec une très belle chanson en même temps. Et en même temps, je trouve que le son rend quelque chose de très doux, parce que au moment où ils pleurent, donc ils sont à l'église, et le prêtre est près de lui, et on sent dans la bande-son, ce travail de la bande-son, où toutes les étoffes s'entendent, et il y a comme ça quelque chose d'une douceur qui imprègne le début du récit. Et après, ce personnage de Monsieur Ponce, un peu disparaît. Il apparaît justement dans ces scènes de café, dans ces scènes de bas d'appartement ou de résidence, de cité, où on parle. Et puis finalement, c'est quelqu'un qui va être le justicier final. Et d'un seul coup, voilà, de témoin, il devient l'acteur le plus important du film. Et je trouve que c'est un très très beau portrait aussi de ce côté-là. Et que voilà, c'est le personnage qui, comme ça, tient le film, en fait.
Florent.
Ouais, moi, Rabah Meurs à l'image, c'est quelqu'un que, pareil, j'ai découvert comme toi sur les Chants de Mandrin, et qui est vraiment quelqu'un d'unique dans le paysage français. C'est difficile de faire des références, même si effectivement Melville vient aussi à l'esprit, parce que le personnage de Monsieur Ponce dont tu parles, il est un peu à mi-chemin entre celui du samouraï et le personnage d'Yves Montand dans Le Cercle Rouge, le côté sniper qui ressurgit un petit peu dans une dernière fois dans sa vie, une dernière rédemption avant de tomber. Donc il y a ce côté-là, et à la fois, quand je pense au cinéma de Rabah Meurs à l'image, ça me fait penser un petit peu aussi à Jacques Rosier, qui nous a quitté il y a pas très longtemps, qui était vraiment un cinéaste que j'adorais, qui a pas fait beaucoup de longs métrages, mais qui était un petit peu un artisan, qui était un peu un bricoleur de génie, qui avait beaucoup de mal à faire des films, parce qu'il avait beaucoup de mal justement à s'insérer dans le côté capitaliste de cette industrie-là, et qui arrivait à faire d'une scène jaillir quelque chose d'inattendu. Et lui, c'était plutôt dans le dialogue, dans l'ordonnancement de sa scène. Chez Rabazaïmer Zaïmèche, c'est plutôt quelque chose qui jaillit dans les moments où ça parle pas, justement, dans les moments comme un peu dans cette superbe introduction du film, avec ce panoramique sur cette cité, où on voit ensuite c'est l'enterrement donc qui inaugure le film, avec cette personne qui chante. Et voilà, on n'est pas dans le dialogue, on est dans une exposition, et à la fois, c'est peut-être la plus belle scène du film, elle est vraiment extraordinaire. Et ça, c'est quelque chose que fait magnifiquement le réalisateur et qu'on voyait aussi dans Histoire de Jésus, un de ses films, Histoire de Judas, dans un de ses films précédents. Et ce qui est amusant, c'est que il avait le rôle de que joue donc Régis Laroche dans ce film-là de Monsieur Ponce. C'est plutôt lui qui avait tendance à les jouer dans ses films, dans Chant de Mandrin par exemple ou dans d'autres précédemment. Donc il est pas acteur pour les autres. Il est un peu la référence à Piala revient aussi. Il est acteur dans ses propres film, et il jouait ce genre de personnage qui attirait un peu l'attention, qui était très magnétique et qui faisait un petit peu polariser le film. Et c'est en ça qu'il est assez extraordinaire, qu'il arrive à faire d'une histoire qui pourrait être un peu l'histoire d'un Fast and Furious. C'est très lointain de son univers, et pourtant c'est des films de braquage, avec une famille, un côté très familial, parce que c'est un gang, mais c'est avant tout des gens d'une même génération qui vivent ensemble et qui représentent véritablement un noyau familial. Et il arrive à en faire quelque chose vraiment de génial, quoi.
Je suis en train d'imaginer Vin Diesel chez Rabazaïmer Zaïmèche, là, c'est. Oh, Clément.
Oui, ben voilà, Melville, Rosier, moi j'ai beaucoup pensé aux frères Lumière pendant le.
C'est plein de frères, Charlie Chaplin.
Alice Guy, beaucoup aussi. Pain levé. Non, bah que dire, je. Alors moi je me souviens voilà de ma moi à Merzheimer, je suis depuis Wesh, qu'est-ce qui se passe, quand j'avais 4 ans, donc j'ai vu en salle. Désolé, j'enchaîne sérieusement. Ce qui est très beau et ce qui est parfois la limite des films d'Amer Zaïmèche, que j'aime beaucoup, et je crois que j'ai effectivement vu tous les longs métrages, c'est sa volonté. Alors comme ces films évidemment ont toujours beaucoup de mal à se faire, tout relève à la fois d'une réinterprétation, effectivement comme l'a dit Francis, de gestes ou d'un domaine épique ou du domaine de l'épopée en mode mineur, comme on dit souvent, avec forcément son histoire de Judas, c'était effectivement une Judée recréée avec 2-3 palmiers, et qui effectivement amène une forme d'abstraction. Et par ailleurs, le Monsieur Ponce joue Ponce Pilate dans Histoire de Judas, donc on sent effectivement une continuation braconnière à travers ces films qui ont du mal à se faire. Voilà, je vais faire un petit peu plus court. C'est effectivement un très beau film qui prend toujours énormément de chemins différents, mais qui s'ordonne autour de cette très belle scène dont on a déjà parlé, deux très belles scènes. Une scène d'enterrement au début, qui fixe vraiment les volutes de poussière en suspension et qui montre déjà en quelque sorte que tout est déjà joué, c'est-à-dire cette idée du fatum, du destin tragique, qui déjà est présent dans ces blocs de béton que sont ces nouvelles églises. Accessible uniquement par ce qu'on appelle en urbanisme les passages du désir. En fait, il y a une très belle scène où, au-delà des tracés qui sont faits par les urbanistes dans les banlieues et qui ne sont pas faits pour les usagers, se créent des chemins de traverse, et les personnages dans leur banlieue ne marchent jamais sur les trottoirs, mais toujours à travers les parcs. Et donc, il y a cette scène voilà, d'enterrement qui se ferait déjà un chemin, et bien sûr, une très belle scène effectivement au PMU, où se joue finalement tout le film. On a braqué. On s'en fiche de savoir si c'est légitime ou non. Le fait est qu'on a braqué. Comment est-ce qu'on ment tout en espérant jouir de cet argent, alors que comme c'est très bien dit par Clément Deléchaud dans sa fiche, on a déjoué toute sa vie à faire semblant d'avoir de l'argent, à jouer aux riches en étant pauvre. Maintenant qu'on est riche, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se retrouve au PMU comme avant et on est rattrapé finalement in fine par le grand ordre néolibéral qui arrive au galop. Je suis moins fan du personnage de Monsieur Ponce finalement, puisque à la fin ça revient sur une dimension traumatique qui moi me semble moins intéressante, et par ailleurs qui effectivement ramène le film d'un truc de Melville, mais je déteste Melville, donc les justiciers taiseux ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est les braconneurs bavards.
Le gang des bois du temple, c'est donc d'ores et déjà en salle, et je vous le disais tout à l'heure. Dépêchez-vous, peut-être plus pour très longtemps. Le retour en salle de Michel Gondry, sans transition, 8 ans après Microbe et Gasoil. Entre-temps, le cinéaste avait signé 8 épisodes de 2 saisons de la série Kidding, qui avait marqué ses retrouvailles avec Jim Carrey, son interprète d'Eternal Sunshine of the Spotless Mind. De quoi est-il question ici ? Dépossédé par ses producteurs du montage de son film, un film que par ailleurs il estime n'avoir pas terminé, Marc décide de fuir avec les Rush et ses proches collaborateurs, notamment sa monteuse, Charlotte, chez sa tante Denise, qui vit dans les Cévennes. Là, au lieu de s'occuper du démontage, Marc se lance dans des projets qu'il abandonne aussitôt, s'enfonce dans la dépression et finit par inquiéter ou exaspérer, c'est selon son entourage. C'est une comédie soit, mais c'est aussi le récit d'une dépression qu'a traversé Gondry lui-même et qu'il a romancé, bien sûr. Et c'est un film aussi qui dialogue assez joliment, je trouve. Peut-être en direz-vous un mot, mais ça vous regarde. Avec L'épine dans le cœur, le beau documentaire qu'il avait consacré en 2009 à sa tante Suzette. À l'affiche, en guise d'alter ego de Gondry, Pierre Niney, qu'on est content de voir refaire du cinéma après tous ces films de Nicolas Bedos, Frédéric Tellier et Nicole Garcia. À ses côtés, Blanche Gardin, Françoise Lebrun et Frankie Wallach. Et le film est en salle depuis le 13 septembre. Clément, tu n'as pas vu le film, mais Francis et Florent, vous l'avez vu. À qui est-ce que je donne la parole ? Mais vous pouvez la prendre.
Ouais, moi, j'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire. C'est vrai que L'épine dans le cœur, c'est un film de 2009 qui avait été présenté à l'époque, donc en 2009, au Festival de Cannes en séance spéciale et qui était sorti, si ma mémoire ne me trompe pas, l'année suivante, en 2010. Qui est un documentaire qui n'a pas été beaucoup vu, je pense. Ça fait partie des films de Gondry qui sont un petit peu en arrière, qui n'ont pas eu beaucoup de salles et qui n'ont pas eu les honneurs qu'ils mériteraient, parce que c'est vraiment un grand film. C'est un film que j'adore parce que, justement, il utilise toutes les qualités du cinéma documentaire, à savoir qu'il surgit quelque chose d'inattendu à l'écran. C'est un film qui était sur sa tante Suzette, qui est dans les Cévennes, qui était institutrice, hein, et qui il voulait mettre en valeur dans ce film-là, parce que c'était quelqu'un de très important dans sa vie. Et c'est pas du tout ça qui ressort du film, c'était l'histoire de son cousin, donc le fils de Suzette, qui est un peu le mal-aimé de la famille, le vilain petit canard. Il y avait toute cette mise en abîme de cette relation ratée entre sa tante et son cousin. Et c'était ça qui était intéressant. C'était pas ce qu'on pouvait s'imaginer de Michel Gondry, cinéaste, qui filme sa tante et chanter sa gloire ou ses problèmes de...
Et qui rend hommage à l'école républicaine, enfin voilà, tout ce à quoi certains ont voulu réduire le film.
Quelque chose de plus convenu. Ce qui était vraiment génial, c'était cette autre histoire qui je sais même pas si c'était prévu. Je pense même que sa famille a dû vivre mal le fait d'être radioscopé comme ça. Et alors que le livre des solutions, qui est une sorte de phase B un petit peu de cette histoire, puisqu'on est dans les Cévennes, on a la tante, on a le cinéaste, on a un petit peu toutes les mêmes figures, mais là on est vraiment dans le processus créatif, la frénésie. On dirait un peu Damien Bonnard dans Les Intranquilles, hein. il arrête pas une seconde.
Il est aussi du coup la phase B de L'écume des jours, parce qu'a priori ce que relate ou fictionnalise ici Gondry sont des choses qui s'inspirent de l'époque où il a réalisé L'écume des jours.
Ouais, qui est déjà pas quelque chose que... Enfin, moi, j'aime beaucoup... Enfin, Gondry, c'est après, je laisse la parole à Francis, sinon je vais trop parler, mais... c'est un auteur générationnel pour moi, parce que c'est quelqu'un, voilà, qui a un peu une entrée en cinéphilie à une certaine époque, Eternal Sunshine, certains autres films qui tournaient beaucoup, qui étaient dans le clip, qui était un petit peu quelqu'un d'effervescent et qui était enfin, qui sortait des choses tout le temps, en fait. Et je sais pas, là, cette évolution-là, alors ça faisait un moment qu'il n'était pas là, Microbe et Gasoil, ça fait déjà 6, 7, 8 ans. Il était un petit peu retourné dans le court-métrage et dans le clip, justement. Et là, je trouve qu'il tombe dans l'hubris, il tombe dans quelque chose qui m'intéresse un peu moins, et puis je le trouve très agaçant. C'est-à-dire, le personnage de Niney, je le trouvais extrêmement agaçant. J'ai beau avoir toute la tendresse du monde pour Gondry, moi, il m'agace, et à la fin du film, j'en peux plus, je suis éreinté par ce personnage-là. Et c'est vraiment la limite énorme que j'arrive pas à m'enlever de l'esprit tout du long.
Francis.
Je vais commencer en rebondissant sur ce que dit Florent. Effectivement, le personnage interprété par Pierre Niney, c'est un gamin insupportable, quoi. Qui passe son temps à insulter son équipe, et auquel... on demande à chaque fois, et donc sa tante, interprétée par Françoise Lebrun, à chaque fois vient lui demander de s'excuser auprès des gens, et à chaque fois on sent que ça lui coûte, qu'il a pas envie de le faire, et que c'est vrai,
sur ce côté-là, on se dit que le film tient avec un personnage qu'on a envie de claquer tout le temps, quoi. Et en même temps, moi, je reconnais que c'est, je trouve le personnage très très drôle, le film enlevé, et que ceci étant dit, moi, j'ai un peu retrouvé ce que j'aime chez Gondry, quoi. C'est-à-dire un sens de l'absurde et du loufoque, aussi un goût comme ça de la tendresse et puis de l'artisanat, du cinéma d'animation. Et alors, bricolé, et là, il y a quand même un interlude de cinéma d'animation, je veux dire, il devrait être montré partout, dans les festivals d'anime. On peut faire de l'anime sans que ce soit époustouflant. Ben, il y a un amour de la musique qui est présent, quoi, de la pop, avec un caméo potentiel dont je ne dirais rien, à la musique contemporaine, avec cette scène qui est en train de devenir un petit peu culte, où voilà, il dirige l'orchestre à partir de son corps, et il dit aux musiciens, suivez mon corps, quoi, pour interpréter. Donc je trouve comme ça que le film est assez réjouissant, et d'un seul coup, au moment où toute son équipe finit par le lâcher parce qu'ils en peuvent plus, ce qui est assez compréhensible, hein, puisqu'il les dérange à n'importe quel moment, quoi. Le personnage de l'assistante réelle interprété par Frankie Wallace est quelqu'un qui a une patience incroyable, quoi. Et d'un seul coup, le film comme ça, avec ce départ, perd toute son énergie, à la fois en tant que film et évidemment le personnage du film. Et je reconnais qu'en tant que spectateur, dans un premier temps, je me suis dit, ah mince, c'est dommage, il y a une perte d'énergie dans le film, et c'est ce qui m'avait tenu. Mais finalement, cette perte d'énergie, c'est peut-être aussi que d'un seul coup, cette euphorie de la création, elle n'existe plus. Et que donc, d'un seul coup, pour ce personnage de réalisateur, eh ben, il y a plus rien qu'il porte, et on va trouver des palliatifs qui pourtant sont très beaux, mais qui d'un seul coup sont insuffisants. Il va devenir maire d'une petite ville, et puis il va devenir père d'un enfant. Ce qui est assez amusant de faire les parallèles, quoi. Sémantique. Et comme ça, et on sent que c'est pas assez. Et finalement, j'ai un peu envie de dire que Gondry, là, il s'inscrit dans tous ces cinéastes du moment qui réfléchissent à leur pratique, qui réfléchissent à leur art, avec des gens très différents. Je pense aussi bien à Spielberg qu'à Damien Chazelle, à Erice ou encore ou à Nanni Moretti. Voilà, je recherchais qui. Mais
ou à Sam Mendes, parce qu'on peut citer des mauvais films aussi.
Bien sûr, mais je ne l'ai pas vu, donc c'est pour ça que je ne le cite pas. Mais il y a toujours un moment qui est préservé dans les films des quatre réalisateurs que je viens de citer, c'est le moment de la projection. Le moment magique, c'est le moment du contact avec le film, dans la salle, l'écran. Et c'est, pour te citer, un moment épiphanique, quoi. Mais sauf que chez Gondry, et je ne dirais pas de quelle manière, même ça, ça n'existe plus.
Alors que c'était l'un des morceaux de bravoure, l'une des plus belles scènes du cinéma de Gondry, même la fin de Be Kind Rewind, qui était déjà une séquence de projection, et qui pour le coup, enfin moi c'est ainsi que je l'ai envisagé et vécu, était une épiphanie.
Voilà. Alors que là, effectivement, même ça est perdu. Et donc c'est vrai que du coup, c'est un film vraiment en deux parties, c'est-à-dire on surjoue, et le fait de citer Damien Bonnard dans Les Intranquilles, effectivement, c'est une réalité. On est hyper actif, et donc on est finalement dans quelque chose de joyeux et de loufoque. Et en fait, juste derrière, c'est la dépression, quoi. Et le film finit comme ça sur une marque de dépression très 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 impressionnante.
Je suis d'accord avec tout ça, et je trouve ça, effectivement, toutes les lignes de force, les qualités du film que tu décris sont là, et effectivement l'animation, j'ai trouvé ça génial, et le travail musical était aussi très intéressant. Mais le problème, c'est que c'est presque dans les marges du film, c'est-à-dire que ce qui te montre au centre, c'est toujours Pierre Niney. Et le problème, il est là, c'est que c'est le truc le moins intéressant et le moins supportable qui occupe toute la place. Et je suis même à un point où je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on suit ce garçon. On pourrait dire oui, on suit le talent, on suit le génie, ça attire des gens. Je le sens à aucun moment, intéressant dans ce qu'il fait, où j'ai l'impression qu'il contrôle absolument rien, que c'est un sale gosse qui veut à tout prix aller à la course aux jouets, et je comprends pas pourquoi des gens le suivent. C'est incompréhensible. C'est pas ça, Michel Gondry, pour moi. C'est quelqu'un qui est vraiment fascinant. C'est quelqu'un, justement, qui met sur la table énormément d'ingrédients, qui est passionnant tout le temps. Et là, j'ai juste quelqu'un que j'ai pas envie de regarder. Et le problème, c'est que ça occulte tout le reste, tout ce que tu as très bien décrit, qui est super intéressant.
Le livre des solutions, c'est donc d'ores et déjà en salle. Oui, je sais, je frustre mes rédacteurs. Mais le programme est chargé, donc sauf toi, Clément.
Tu seras frustré à un autre moment.
6 ans après l'autre côté de l'espoir. Vous savez où j'en viens à présent. Aki Korismäki qui nous revient avec Les Feuilles Mortes, présenté en mai dernier en compétition officielle à Cannes. Il en est d'ailleurs reparti avec le prix du jury. L'auteur de J'ai engagé un tueur au loin, S'envolent les nuages, encore L'homme sans passé, il narre les amours naissantes et contrariées de deux héros ordinaires et solitaires de la condition ouvrière. Elle, Ansa, vient d'être renvoyée du supermarché où elle travaillait pour avoir voulu récupérer un produit promis à la poubelle. Lui, Olapa, perd son travail sur un chantier en raison de son alcoolisme. Ces deux-là finiront-ils ensemble, je vous le demande. Aki Korismäki porte à son sommet son art de la litote pour, sans pathos aucun, montrer l'injustice sociale et raconter une belle rencontre amoureuse. Tels sont les mots de Paul Fabreuil dans Les Fiches du cinéma. Une fois n'est pas coutume, je me permets de partager avec vous, et non pas de vous partager, bande de barbares, la note d'intention de l'impayable Korismäki, je cite... Même si j'ai acquis aujourd'hui une notoriété douteuse grâce à des films plutôt violents et inutiles, mon angoisse face à des guerres vaines et criminelles m'a enfin conduit à écrire une histoire sur ce qui pourrait offrir un avenir à l'humanité, le désir d'amour, la solidarité, le respect et l'espoir en l'autre, en la nature et dans tout ce qui est vivant ou mort et qui le mérite. Je tire au passage mon trop petit chapeau à Bresson, Ozu et Chaplin, mes divinités domestiques. Je suis cependant le seul responsable de cet échec catastrophique. Je trouve ça très beau. Dans les premiers rôles, Alma Poisti et Jussi Vatanen, et le film est d'ores et déjà en salle.
C'est assez marrant que tu dises 6 ans après De l'autre côté de l'espoir, puisque qui se souvient de l'autre côté de l'espoir ? Et c'est, je trouve que, en fait, je vois beaucoup d'écrits dire que c'est vraiment l'un des plus beaux films de l'année. C'est vrai que c'est un très beau film, mais surtout, et là on y revient, c'est presque une résurrection, quoi. C'est-à-dire vraiment. On était arrivé, moi je suis pas très fan du Havre, je sais pas ce que vous en pensez, mais on était arrivé à un tel degré académique dans le cinéma de Korismäki, c'est-à-dire même un académisme qui passait par une forme de gloutonnerie, mais qui était complètement maîtrisé par un format, par une gang absolue. Enfin, pour parler franchement, c'était du cinéma collégien au cinéma, quoi. Ce qui est vraiment le pire du pire pour qu'on puisse dire pour un cinéaste. À partir du moment où c'est réductible à des petites fiches à destination des enfants, quoi. C'est un très beau film qui arrive à toujours insuffler de la vie dans une ambiance qui est quand même particulièrement mortifère. Je trouve ça étrange que ça soit pas une remarque qui soit plus faite. Je pense que c'est quand même un film qui fait des beaux clins d'œil à la critique, parce que je suis pas sûr que ce mélodrame réduit à l'os puisse toujours sembler autre chose qu'une vision quand même un petit peu fabriquée d'un certain cinéma taiseux, éthylique, mais malgré tout, ça fonctionne toujours. Donc il y a c'est assez étrange, je suis assez partagé en fait. Je l'ai vu à Cannes et j'étais assez extatique, parce que ça offrait un vrai renouveau du cinéma de Korismäki et là aussi une très belle prégnance au présent malgré tout, puisque même si le film est assez peu daté, il y a effectivement tout un lien via la radio avec les conflits récents. La guerre en Ukraine revient un peu comme une scie, et la Finlande étant un pays qui est quand même frontalier et très proche de la Russie, une ambiance apocalyptique qui est présente dans le film. Mais voilà, je m'interroge, j'aimerais bien savoir ce qu'en pensent mes collègues par rapport à cette dimension quand même un peu figée, et où on a l'impression que on remplit nous-mêmes les creux du film, quoi. Tout n'est pas toujours rempli complètement, mais je ne sais pas.
Avec peut-être des morceaux de la filmographie de Korismäki. Je ne sais pas si c'est un film qui s'adresse aux primo-arrivants en priorité ou aux connaisseuses et connaisseurs du cinéma de Korismäki. Francis.
Oui, je ne sais pas. Et puis ma réponse, elle serait peut-être pas très pertinente, parce que je me rends compte que je n'ai pas vu beaucoup de films de Korismäki. En fait, la première fois finalement que j'en ai vu un, c'est L'homme sans passé. Et qu'après, effectivement, oui, j'ai vu Le Havre. Bon, Le Havre, c'est pas forcément. C'est un film qu'il arrive à faire en France, justement, avec entre autres des comédiens français, même si Jean-Pierre Léaud avait déjà effectivement joué chez lui bien auparavant. Donc, je sais que j'ai pas comme ça une connaissance du cinéma de Korismäki, mais que d'un seul coup, celui-ci me donnait envie et finalement, pour moi, répondait un peu, finalement, au seul que je connaisse vraiment, qui était L'homme sans passé. Quoi. J'avais l'impression de trouver deux films qui peut-être se répondaient un petit peu, en tout cas dans mon souvenir de L'homme sans passé, puisque je ne l'ai pas revu depuis. Et quand j'arrive dans le film, je me dis, Et peut-être qu'effectivement, je remplis des creux avec les peu d'éléments que j'aime et que j'aime bien qu'on me laisse remplir des creux aussi au cinéma. Je me dis, bah voilà, j'arrive chez Coris Maki, comme tout à l'heure je le disais pour Gondry, et je retrouve des choses. Donc oui, c'est les c'est pour compte qui sont toujours dignes et en même temps un petit peu effacés. L'humour grinçant et puis le regard généreux et non démago.
Ça t'a fait rire vraiment ?
Ça m'a rire non ça non alors ouais. Ça m'a fait sourire à plein de moments.
Ouais, ouais.
Alors si il y a des choses qui m'ont
peut-être
fait...
d'une plaisanterie à la sortie d'un cinéma sur le cinéma de Jim Jarmusch.
Oui, bah
qui est un clin d'œil épais à la critique.
Et effectivement des choses comme ça. Oui, parce que peut-être j'ai les outils que quelqu'un d'autre n'aura pas, mais en même temps, si on prend donc la citation du film de Jarmusch, où ça me fait rire de voir un cinéaste laconique qui fait un clin d'œil à un autre cinéaste laconique ou flegmatique, quoi, comme on voudra, et que on a vraiment un extrait du film, quoi. Au bout d'un moment, il y a, voilà, on se noie dans le film, donc on peut être pratiquement comme les deux personnages, et que effectivement, d'un seul coup, moi, je veux dire, elle m'amuse, sa sortie. Que, oui, de toute façon, les flics ne pouvaient pas y arriver, il y a trop de zombies. Je veux dire, je trouve ça magnifique. Et je trouve ça, alors, justement, je trouve ça magnifique par rapport à un truc qui est là, peut-être que je remplis, pour répondre à ce que tu dis. Parce que d'un seul coup, c'est premier rendez-vous, galant, timide. Ils vont au cinéma, ils vont voir un film de zombies. Je ne devrais pas dire ça, mais je vais parler de moi-même, mais pas de moi, mais de mes parents. La première fois où mes parents vont au cinéma, ils vont voir quoi ? Pour leur première rencontre, si ma mère écoute, mon Dieu, ils vont voir Tarzan. Et je veux dire, pour moi, d'un seul coup, il y a effectivement comme ça quelque chose qui se remplit. C'est comment, voilà, bah on n'est pas forcément cinéphile, alors que le cinéma dans lequel ils vont, on voit, il y a du Godard, enfin, il y a ce qu'il faut à l'affiche. Hein,
mais ce qu'ils disent du film en sortant n'est pas du tout cinéphile, c'est ce que je trouve d'autant plus charmant.
Voilà.
Et voilà, effectivement, il y avait trop de zombies, ils ne pouvaient pas s'en sortir. Voilà.
Voilà. Et c'est
commentaire méta, c'est pas intellectualisé, c'est ce que je trouve d'autant plus beau.
Et c'est ça que je trouve finalement magnifique dans le film, et c'est pour ça, là, sur le plateau, j'ai amené finalement le dernier roman là, de François Bégodeau qui fait la rentrée littéraire, qui s'appelle L'amour, et qui, comme ça, alors, lui raconte sur une vie, une histoire d'amour entre dans un couple, un homme, une femme, comme ça, l'amour d'une histoire qui serait sans crise et sans événement. Et moi, je me dis, dans le film de Coris Maki, il n'y a pas de bouleversement majeur, il y a des obstacles à surmonter. Et même si on est aux prémices d'une histoire d'amour, on est comme ça aussi dans quelque chose qui est sans crise. Bon, ce qui s'y passe, que je ne vais évidemment pas raconter, pour moi, ce ne sont pas des crises. Et sans événement. Et je trouve que du coup, comme ça, il y a une espèce de rayonnement, de beauté du film, avec ces clins d'œil que, effectivement, je trouve très beaux, comme ça, j'ai envie de dire, d'un cinéaste vagabond à l'autre, à travers un chien subtilement nommé. Enfin, tout ça me séduit, me remplit, me fait sortir comme ça dans une espèce de joyeuseté. Et après, je dois reconnaître une chose, hein, et là, je vais pas mentir, c'est que, le personnage interprété par Alma Pesty est quand même quelqu'un d'assez intransigeant, souvent, et d'un seul coup, un demi-sourire, un regard, et t'as l'impression que c'est l'amour qui déborde sur le personnage masculin, et je trouve ça juste magnifique, quoi, à ce moment-là.
Je vais juste prendre rapidement la parole. En fait, je crois que j'ai compris effectivement ce qui me pose souci dans le film, en écoutant Francis attentivement, c'est que je pense que Coris Maki, en plus, le sait, et il joue avec ça, mais ça reste une limite pour moi, c'est qu'il... Il sait qu'il est plus Jarmusch que Bresson, en fait. Avec un flegmatisme cool qui est un peu finalement rentré dans une postérité un peu papier glacé. Et cette limite-là, c'est un aveu de faiblesse, mais une faiblesse de cœur, quoi. Ce qui est touchant, qui effectivement me touche, mais qui offre aussi une limite. Je vois un peu un flegmatisme de pose, finalement.
Florent.
Ouais, moi juste un mot pour finir sur le film, c'est moi ce qui m'a explosé au visage, c'était le sentiment d'assister à un mélo des années 40 de l'âge d'or hollywoodien qui aurait été passé à l'essoreuse Coris Maki, qui aurait été vidé de tout ce qui dépasse, de tout le gras et de toute la musique pompière derrière, et dans lequel il resterait vraiment que les purs. Et ça, on le voit notamment donc dans la scène dont vous avez parlé au cinéma, qui est pleine de références, mais qui est là un peu pour le décor. Et la scène de l'hôpital, on a vraiment l'impression l'impression d'être dans un hôpital des années 40, voire en dessous. On n'est pas du tout dans quelque chose de contemporain, on est complètement intemporel, comme le disait Clément au début. Et ça, je trouve ça extrêmement réjouissant, c'est que on est dans une histoire d'amour, on est dans une espèce voilà de parcours initiatique ou d'éducation sentimentale, où on parle de choses très graves, mais c'est pas grave, il y a un accident, il se passe quelque chose, on finit à l'hôpital, mais c'est pas grave, on a une histoire à finir. Il y a comme ça un enchaînement, moi, que je trouve assez amusant et qui fait que le film parle de la guerre, il parle de sujets très durs, mais tout en restant dans son espèce de fil conducteur de mélo qui le rend vraiment très sympathique.
Les Feuilles Mortes d'Aki Kaurismäki, c'est donc d'ores et déjà en salle. Je vous propose à présent qu'on fasse une nouvelle pause musicale, et puis on va enchaîner très vite sur trois films qui, à mon avis, devraient faire débat aussi. On se retrouve donc dans quelques instants.
The kind people have a wonderful dream. Margaret Gellertie. Cause people like you make me feel so tired. When will you die? When will you die? When will you die? When will you die? People like you make me feel so old inside. Please die. Unkind people, do not shelter this dream, make it real. Make the dream real. Make the dream real. Make it real.
De retour sur les ondes de Radio Libertaire à l'écoute de Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Thomas Faux à micro. À l'instant, nous écoutions Margaret and the Guillotine de Morrissey, chanson adressée voici 35 ans à Margaret Thatcher. Le sort de Margaret étant depuis réglé, libre à vous de la dédicacer en pensée, par exemple, à un autre responsable politique de votre choix. C'était pour moi un petit instant nostalgie, nostalgie d'une époque où Morrissey chantait pour la classe ouvrière plutôt que d'entonner des purges complotistes sur l'incendie de Notre-Dame. Nous en reparlerons peut-être dans une émission ultérieure. On poursuit ce tour d'horizon des sorties en salle. Jusqu'ici, nous avons évoqué des films d'auteurs et d'autrices confirmés. À présent, soucions-nous de la relève. Voulez-vous bien ? Cette année, le rédacteur en chef des fiches du cinéma, Nicolas Marcadet, faisait partie du jury de la Caméra d'Or. Un jury ayant pour vocation, vous le savez peut-être, de distinguer parmi toutes les sélections cannoises, L'Officiel, La Quinzaine et La Semaine, à l'exception de L'Acide donc, le meilleur premier long métrage de l'édition. Et ils ont choisi de distinguer L'Arbre Papillon d'Or du vietnamien Phan Thien Anh, sélectionné à la quinzaine des cinéastes. Comment l'introduire mieux et de façon aussi concise que Nicolas Marcadet dans sa critique pour les fiches ? Regarder, ressentir, penser les trois en même temps si possible. Le cinéma a pour objectif de faire ça. L'Arbre Papillon d'Or ne le perd pas de vue une minute et, par voie de conséquence, pas une minute, il ne cesse d'être du cinéma. L'argument en quelques mots, nous sommes à Saigon, Thien apprend la mort de sa belle-sœur, victime d'un accident de la circulation. Le fils de celle-ci, âgé de 5 ans, est miraculeusement indemne. Thien accompagne la dépouille en compagnie de son neveu vers le village dont il est lui-même originaire. Ce faisant, c'est aussi bien évidemment au devant de sa propre jeunesse et de ses souvenirs qu'il se rend. Au casting, Lê Phuong Vũ, Nguyen Thi Truc Quyên et Nguyen Tin, et le film est d'ores et déjà en salle. Florent, très tôt, tu avais découvert le film et très tôt, tu en avais fait la réclame.
Ouais, j'ai eu la chance de le voir en amont et de pouvoir l'apprécier, de l'apprécier à sa juste valeur, parce que c'est quand même un film de 3 heures très très lent, très contemplatif, donc il demande quand même une certaine attention. Et disons que, alors le début du film est très important. Il se trouve que les 14 premières minutes sont déjà un court métrage à la base qu'il avait présenté en 2019 à la quinzaine des réalisateurs.
Et que j'avais découvert moi dans le cadre de la semaine de la critique, splendide court métrage.
Voilà, qui avait été primé à la quinzaine et qui représente donc ce début. Alors ce début qui me fait beaucoup penser à un film qui était sorti en mars cette année, qui s'appelle Los Reyes del Mundo de Laura Mora, donc qui est un film colombien qui partait de Medellín, donc une ville extrêmement, enfin une ville millionnaire avec beaucoup de monde, avec une ambiance urbaine très chargée, et où très rapidement on quitte la ville pour aller vers la ruralité avec un espèce de mouvement comme ça qui accompagne la caméra ce mouvement qui est très très impressionnant. Alors il y a vraiment ce parallèle qui existe entre les deux films. Et Et donc le film de Phan Thien Anh est vraiment dans ça, dans ce truc de nous faire un petit peu découvrir. On a l'impression de voir le Vietnam pour la première fois. On a l'impression de voir des flashbacks pour la première fois, parce que c'est la première fois, parce que c'est un procédé qui est un petit peu, moi, que j'aime pas beaucoup, que je trouve assez putassier en règle générale. Là, il arrive à en faire quelque chose. Il utilise sa durée vraiment pour faire durer ses plans et pour les faire véritablement naître à l'écran. Hein, y a des scènes avec des coqs, avec des choses comme ça, qui ne marcherait pas si les scènes n'étaient pas étirées. Donc et à la fois, c'est un cinéma qui est très narratif. C'est pas du tout quelque chose on pourrait penser Vietnam, la Thaïlande pas loin, donc quelque chose qui va un peu dans le sens d'un oncle Bunmi ou quelque chose comme ça. Pas du tout. Moi, je trouve qu'on est dans quelque chose de beaucoup plus facile à lire, de beaucoup plus traditionnel dans sa narration. Et qui pourtant a une pointe d'ésotérisme à un moment donné qui surgit malgré tout. Mais on est plus dans quelque chose qui partirait d'Oussia Ossienne dans ses débuts dans les années 80 autour des garçons de Fen Kuei et de ce cinéma-là, et qui va jusqu'à Bigan avec Kylie Blues, qui était aussi dans la même idée dans le mouvement, de déplacement à l'intérieur d'une campagne qui semble un peu vue pour la première fois.
Francis.
Oui, bah, alors ça va peut-être surprendre un Radio Libertaire que je dise ça, mais finalement la première source d'intérêt du film pour moi c'était comme ça, c'est de plonger dans une communauté chrétienne sur une terre asiatique, parce que je trouve qu'il y a, je mets des guillemets au mot, hein, il y a quelque chose d'exotique dans le sens où on s'attend pas à ces communautés, à cette présence forte. Ça, en voyant le film, j'ai pas pu m'empêcher par rapport à ça, penser par exemple à Secret Sunshine de Lee Chang-dong, ou comme ça aussi en Corée, l'importance finalement de la pratique chrétienne, de ces cette culture et qui s'impose alors que dans le reste de l'Asie, c'est pas présent. Et le film aussi joue de ça et je trouve que c'est passionnant parce que du coup, moi j'y vois comme ça un îlot d'influence et puis une double curiosité pour moi qui est à la fois sociologique, c'est celle de, comme ça, cette communauté, ce collectif et la, par rapport à la société qui l'entoure et puis évidemment intime avec ce rapport de l'individu à lui-même et ce que le film propose. Et après, pour peut-être rebondir plus sur la forme par rapport à ce qu'on disait Florence, c'est vrai qu'on est dans une facture lente et moi j'ai envie de dire non tonitruante de virtuosité. Et il y a comme ça des plans que je trouve absolument fascinants, comme un long plan séquence qui commence dans un jardin où le personnage principal et son meilleur ami sont en train de parler en s'occupant comme ça des coqs, et puis il y a le petit garçon qui joue, et puis après le personnage principal s'en va sur une moto. Et le départ en moto et toute la traversée du village en moto est très douce. Il n'y a pas de circonvolution. Et quand la caméra peut-être fait un mouvement d'appareil, c'est toujours dans une douceur, comme ça, dans quelque chose de sobre. Et ce qui permet justement d'aller peut-être dans l'intériorité, dans une intériorité qui va peu à peu s'apaiser jusqu'au plan final. Et je trouve qu'en même temps, il y a quelque chose de très drôle et que j'aime beaucoup, c'est que effectivement le film est plutôt construit en plan séquence et puis d'un seul coup il a une scène avec ses deux amis qui parlent, qui s'occupent dans un champ des coqs, qui essayent de les ramasser, puis après ils vont partir et puis d'un seul coup mais comment je pourrais les faire partir pour les reprendre, et il fait un plan de coupe, alors qu'il n'y en a jamais dans le film. Et le plan de coupe, c'est juste un coq tenu sous le bras et on retrouve les deux personnages qui continuent. Je trouve qu'en même temps, il y a quelque chose d'un humour sur lui-même qui est assez salutaire.
Clément, quelques mots, parce que je pense que sur le film suivant, tu auras envie de disposer d'un petit peu plus de temps de parole.
C'est un très beau film, effectivement, dès lors qu'il touche aux problématiques... ou en tout cas à la sève de la foi, effectivement. Je trouve que le film est un peu long. J'aime beaucoup, hein, mais voilà, je vais un peu faire... Je se perds un petit peu dès lors qu'il quitte véritablement la ville. Tout ce qui touche effectivement au mythe et à l'entrelac pagano-chrétien est sublime. Et il y a énormément de scènes qui sont vraiment d'ordre génétique, c'est-à-dire d'une nouvelle cosmogonie, c'est-à-dire les animaux, les buffles ne sont pas du tout filmés comme des buffles, mais comme des espèces d'apparitions vraiment comme si de façon performative, quoi. Il suffit de dire qu'on redéfinit les contours du monde et qu'on revisite de nouveau un endroit pour que le monde soit complètement remodelé à notre façon, et c'est la marque des très grands cinéastes, c'est-à-dire que c'est vraiment évident que c'est un très 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 grand cinéaste qui peut-être pourrait enlever une demi-heure de plan séquence superfétatoire sur des coques. Moi, je n'aime pas du tout ce plan séquence. Mais ce n'est qu'une question d'intensité. C'est un très bon film.
L'Arbre papillon d'or, c'est donc d'ores et déjà en salle. Et nous en venons à présent au nouveau film de Radu Iud, N'attendez pas trop, de La fin du monde. À Bucarest de nos jours, Angela, assistante de production, sillonne la ville à la rencontre de victimes d'accidents du travail dont elle recueille des témoignages pour le compte d'un casting où sont sélectionnés les intervenants d'un film d'entreprise à destination de ses salariés. Par ailleurs, Angela, à ses heures perdues, publie des vidéos sur TikTok dans lesquelles, à l'aide d'un filtre, elle interprète le rôle outrancier du macho Bobita, avatar digital qui se répand en injures sexistes et plaisanteries scabreuses. Je précise enfin qu'à ce récit, l'auteur entremêle des scènes tirées d'un film de 1981, Angela Merger, Maï Desparté, de Luciane Bratou, chronique du quotidien d'une chauffeuse de taxi dans la Roumanie de Ceaușescu. Je n'irai pas jusqu'à vous dire jusqu'où va le dialogue entre ce film et les images de Radu Iud. Mes collègues s'en chargeront s'ils le souhaitent. Avec son précédent film, Le prodigieux Bad Luck Banging or Looney Porn, Radu Iud semble avoir trouvé une forme qu'il reconduit ici. Forme faite notamment de collages disparates entre différents régimes d'images et nourris de citations diverses. La Roumanie contemporaine est celle de Ceaușescu, donc le capitalisme, le communisme, les rapports hommes-femmes, l'Europe, l'entreprise, la ville et puis le cinéma des frères Lumière à Godard. Tous trois cités, parmi tant d'autres choses, voilà un film généreux, iconoclaste, que pour ma part je trouve absolument enthousiasmant. Au casting Ilinka Manolace, Ovidiu Pirsan et Nina Hoss, le film sera en salle à compter de mercredi prochain. Clément.
J'aimerais être le meilleur ami de Radu Iud, parce que c'est le seul cinéaste qui arrive aussi bien à entremêler le plus, et dans le même plan, l'humour le plus graveleux et la pensée la plus précise, la critique la plus acerbe possible du néolibéralisme, en tout cas du néo-capitalisme, et éviter le regard un peu, enfin la rédhumation du communisme. C'est un film prodigieux, mais c'est un film prodigieux comme Bad Luck Banging, comme peu m'importe si l'histoire nous considère comme des barbares, qui est ses précédents films, sont des films prodigieux. C'est vraiment, je le dis vraiment, et le film en fait une qualité, c'est vraiment un emmerdeur en fait. Et vraiment au sens de quelqu'un qui a bien considéré que l'avenir, que le passé était détritique, le présent est détritique, le futur sera détritique, tout ce qu'il faut. C'est sortir la merde, vraiment, littéralement, c'est ce que le film de toute façon fait, l'exposer, l'inventer, enfin au sens d'exhumer, et face à ce charnier de pensée, d'interdiction, de problème, essayer d'en sortir quelque chose. C'est vraiment un travail de chercheur d'or ou d'alchimiste. C'est sortir tout ce qu'il peut y avoir de plus pourri, enfin vraiment la putréfaction absolue qui était déjà à l'œuvre dans Bad Luck Banging. Alors c'est Bucarest, mais ça pourrait être votre ville. Enfin c'est vraiment, c'est adaptable à n'importe quelle cité européenne de l'Union européenne. C'est fait avec un tel mauvais esprit. Enfin bon, j'ai vu le film, je l'ai vu hier, donc le grand patron qui est donc un patron autrichien. Qui est le grand patron, qui chapote un petit peu le travail d'Angela. Pour les spectateurs qui vont voir ce film, je les invite à retenir comment s'appelle ce grand patron. C'est quand même un
chose sur laquelle tu as attiré mon attention d'une violence, que je n'avais pas remarqué.
C'est ça, un pied de nez d'une violence inouïe. C'est le lien, c'est vraiment brillant. Le lien qui est fait avec un film des années 80, donc qui est quand même pré-révolution, mais qui en même temps permet de faire un collage qui est vraiment godardien entre ce qui relève de la fiction, ce qui relève de la réalité, ce qui relève de l'idéalisation qu'on peut faire de personnages de fiction une fois qu'ils sont baignés, immergés dans la lumière un peu en fait eux aussi sont soumis à la décomposition. Des personnages qu'on pouvait idéaliser dans un film de 81 deviennent finalement comme tout le monde des ordures xénophobes en 2023. C'est un film exaltant, et c'est la preuve que la Roumanie, pour moi, est le seul film qui arrive à mettre des mots et des idées et de la pensée, percevoir, dessiner, comme on peut dire avec Nicolas sur l'arbre papillon d'or, à articuler la pensée didactique, dialectique, intellectuelle sur le Covid. C'est le seul pays qui arrive à faire du cinéma avec le Covid, et c'est un miracle, et Radu Udo est un cinéaste miraculeux.
L'univers étendu du cinéma roumain. Florent.
Ouais, non, j'ai pas grand chose à ajouter derrière ça. C'est vraiment. Déjà, c'est quelqu'un enfin, qui a des films avec des titres assez fantastiques. Hein. Je pense que Clément les a cités, hein, que ce soit Banging or Lonely Porn, peu m'importe si l'histoire nous considère comme des barbares. Enfin, déjà, c'est un programme, quoi. Et c'est le menu est déjà assez fantastique. Et il y a un travail sur la forme qui est assez fantastique, donc comme on l'a déjà dit, avec ce dialogue avec un autre film. Mais il y a aussi cet élément qui déjà m'avait fasciné dans le film précédent et dont Clément parle, c'est la façon dont il arrive à capter la violence en fait du centre-ville, qui effectivement est Bucarest et pourrait être une autre, et la façon dont il montre à quel point c'est étouffant et à quel point ça devient insupportable de vivre en ville en fait. Et comme tout le monde est à cran, il y a ce véhicule de l'automobile.
Ça t'a donné un désir de néo-rural, non ?
Non, pas du tout, loin de là.
Et en même temps, la partie bucolique est ramenée à une dimension mortifère dans une scène qui est sublime, où on filme, je ne dis pas quoi.
Oui, mais justement, c'est ce que j'allais dire, c'est que il y a ce véhicule de la route, de montrer la route et de d'un seul coup de changer de film et puisque tu ne l'as pas dit, je ne vais pas le dire non plus, de nous montrer quelque chose de complètement surprenant et qui est long en plus, qui est dur, c'est-à-dire qui se permet une espèce de fugue, de disparition de son récit pour raconter autre chose pendant 10 minutes.
Qui est aussi un temps de silence.
Qui est con, voilà, il y a absolument aucune musique, aucune parole, rien, et c'est la surprise permanente en fait, ce cinéaste, en permanence on est surpris avec un dispositif donc qui est par contre est quasiment le même que pour Bad Luck Banging, parce que on a ce chapitrage avec une scène donc pas finale puisqu'elle est quand même, elle fait quand même une demi-heure, donc un deuxième acte qui reprend exactement le même ordonnancement que le deuxième acte du film précédent, mais tout en prolongeant un petit peu cette satire politique politique et qui fait des satires politiques comme ça aujourd'hui, tout en étant drôle, tout en restant vraiment hilarant, parce que c'est un cliché mais que j'aime quand même bien répéter, c'est qu'il n'y a rien de plus difficile que de faire rire au cinéma, et lui il le fait avec un talent exceptionnel tout en restant politique. Il perd jamais de vue sa ligne de dénonciation, de dire des choses, de répéter des choses super importantes sur le contemporain. Et donc, notamment, de réussir à faire cette espèce de pamphlet très contemporain autour du Covid, notamment dans ces centres-villes qui nous présentent comme étant l'enfer, quoi.
Je précise, Florent, que tu as signé l'affiche de N'attendez pas trop de la fin du monde pour les fiches du cinéma. Chers abonnés, ou abonnés d'aujourd'hui, abonnés de demain, je vous invite à la découvrir en ligne dans notre revue. Je passe la parole à Francis.
Oui, bah, que rajouter ? Que rajouter ? D'ailleurs, je ne sais pas que rajouter. Non, mais ce qui est vrai, alors, d'une part, c'est toujours ces films très longs et ces constructions absolument improbables et qui sont à chaque fois magnifiques, étonnantes. Et effectivement, on ne dira pas, mais cette dernière demi-heure de film, où d'un seul coup on a l'impression d'être là en temps réel, est absolument incroyable. Et comment petit à petit, un dispositif qui s'est mis en place se dégrade est montré sous nos yeux comment on passe, comment on se déresponsabilise et comment justement là il fait une critique du monde capitaliste, mais comme ça qui souffle sous nos yeux quoi, d'un seul coup, et sans didactisme on voit comment petit à petit le discours
nourrit bien évidemment des lâchetés successives de chacune et chacun.
Tout à fait. Et comme ça, le discours se vide et on n'est jamais responsable de rien. Moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est la manière, effectivement, dont les deux films finissent par se répondre avec cette chose que j'avais pas remarqué sur le coup, mais en réfléchissant pour aujourd'hui, que effectivement les deux personnages principaux ont le même prénom. Elles sont toutes les deux une Angela, mais une Angela dans des périodes différentes. Alors ce qui est assez saisissant, c'est de voir que d'un seul coup, en 1981, le trafic automobile est moindre, d'abord parce que moins de gens ont la possibilité d'avoir une automobile, mais que de toute façon, on est comme ça dans la même espèce de course, même si elle est même si elle est plus lente, et dans la même espèce d'effondrement, et en même temps on continue, et je me suis amusé de me dire que finalement ce titre là il pouvait presque se traduire par justement Angela va de l'avant, et que les deux Angela elles vont de l'avant dans des contextes à chaque fois différents et des contextes saturés qui font effectivement aussi référence au fait que Radoujoud n'hésite pas à dire que de toute façon il comprend pas à Bucarest on ne peut pas être heureux. Et comment ça se fait? Et donc, juste dernier point, et je vais vite, c'est que quand même, il y a une actrice qui tient tout le film aussi, et il faudrait peut-être pas oublier Ilinka Manolac, parce que je trouve que avec elle, enfin, elle est démentielle, quoi. C'est juste une. Là, on peut parler de performance, mais complètement saturée et que je trouve extraordinaire. J'avais l'impression d'avoir jamais vu ça à ce point, quoi.
N'attendez pas trop de la fin du monde, c'est découvrir en salle à partir du 27 septembre. Je précise que Radouillou est en France en ce moment même pour accompagner une série d'avant-premières et de séances. Ce soir, il sera à l'ABC Toulouse, demain au cinéma Diagonal de Montpellier, lundi au Méliès de Montreuil, mardi au Reflet Médicis à Paris. Pour plus de précisions, je vous renvoie vers le distributeur Météor Film.
N'attendez pas trop de le voir.
Retour en France, en quelques mots pour le tout dernier film de notre table ronde, mais ce serait dommage de le sacrifier. Après Les Combattants César 2015, du meilleur premier film Thomas Caillet écrit et réalisé pour Arte, une série en 6 épisode, Ad Vitam. Il revient ce 4 octobre avec son deuxième long, Le règne animal. Le sujet en quelques mots, dans un avenir proche, une étrange épidémie frappe une partie de l'humanité. Des hommes et des femmes ont commencé à muter, à se changer progressivement en animaux, qui en ours, qui en pangolin, qui en loup, qui en araignée. Je sais que Clément a bien aimé l'araignée. Ouais. C'est le cas de la compagne de François, lequel, pour demeurer près d'elle, déménage avec leur fils adolescent, Émile, dans le sud de la France, où seront rassemblés dans un centre dédié les mutants en question. Mais à la faveur d'un accident de la route, la dite compagne disparaît dans la nature, et bientôt Émile, lui aussi, commence à muter. Thomas Caillet a de la suite dans les idées, survivalisme et spectre de la catastrophe dans Les Combattants. Ici, conditions animales, cohabitation entre espèces et partage du territoire. Voilà un cinéma qui dialogue ouvertement avec le contemporain, avec un succès dont je laisserai mes collègues, que je sais partager sur la question, vous entretenir. Au casting, Romain Duris, Adèle Exarchopoulos et le jeune Paul Kircher, frère aîné de Samuel Kircher, que nous évoquions tout à l'heure. Décidément, la grande bourgeoisie est pleine de talent. Qui veut dire un mot du règne animal?
Déjà, hein, bravo pour ce débit de parole mitraillade qui me rappelle les plus belles heures du tongue twisting. Dédicace à Busta Rhymes et Twista.
Tout à fait.
Bravo. Bah, j'enchaîne du coup après ça. Je vais faire très rapide. Ce que je trouve, on a déjà beaucoup parlé entre nous, donc c'est vraiment là. Ce que je trouve magnifique.
La question est, est-ce qu'on peut évoquer ce film sans avoir consommé chacune et chacun une bouteille de vin, comme ce fut le cas en réunion de rédaction la semaine passée.
Ce que je vais faire vraiment rapide. Hein. Ce que je trouve sublime avec ce film, c'est que donc des personnages se métamorphosent, des humains se métamorphosent en animaux sans vraiment le choisir, et le film ne tranche jamais de ce que cette métamorphose est le nom. Et ça marche à la fois sur la partie visible, mais sur le fond, mais sur la forme du film également. C'est-à-dire que la forme, et c'est ce qui peut lui être reproché, ne tranche véritablement jamais entre ce qui peut relever d'un récit d'apprentissage, de la fable politique, d'une fable écologique, mais d'une fable écologique qui évite les écueils les plus New Age, le respect de Gaïa. C'est-à-dire que, certes, c'est la fin de l'Anthropocène, mais la nature est déjà par trop modifiée, on ne peut plus revenir en arrière, il suffit maintenant de réhabiter, d'apprendre de nouveau, à avoir une nouvelle connaissance d'un monde qui finalement est frappé d'alignement et où des corps en transformation, ostracisés, essayent de vivre. Donc c'est un très beau, je trouve que c'est un très beau film de genre français qui, en ne tranchant jamais, passe son temps finalement à faire des micro-explosions à l'intérieur du récit qui, certes, ne sont jamais forcément toujours expliquées, mais qui trouvent toujours une résolution, soit dans le hors-champ, soit dans l'esprit du spectateur, qui en font un très bon divertissement et un film plus pertinent et plus profond qu'il en a l'air.
Florent, je sais que tu es beaucoup plus partagé sur le film.
Oui, parce que déjà, je trouve que c'est une fausse bonne idée. C'est-à-dire que c'est un film de genre qui va plaire aux gens qui n'en ont rien à faire du genre. Et je pense que tu te reconnaîtras peut-être là-dedans, Clément.
Oh, le clash.
C'est un peu comme ça, une certaine littérature qui va se...
Il avait déjà mis le flashback en PLS tout à l'heure.
C'est un peu comme
j'ai enlevé mon t-shirt là.
Une certaine littérature qui va se s'immiscer dans les arcanes des prix Goncourt en s'incoquinant, en faisant un petit peu de fantastique alors qu'il en a rien à faire au final et qu'il est juste là pour montrer un petit peu pour attirer le chaland quoi. Et là j'ai l'impression que le cinéma fantastique qui est un petit peu cité par le film est plutôt quelque chose qui va du côté du cinéma anglo-saxon qui le fait très bien depuis très longtemps. Et quand je vois ça arriver dans le cinéma français, malheureusement j'ai toujours quelques réticences parce que on a tendance à pas trop savoir le faire. Là on a l'impression de découvrir l'eau tiède avec la thématique du film. C'est quand même quelque chose qui existe dans la littérature depuis très longtemps, dans la bande dessinée d'autant plus parce que on a l'impression d'être vraiment dans une bande dessinée que j'aime beaucoup qui s'appelle Sweet Tooth de Jeff Lemire et qui a d'ailleurs été développée en série depuis. Série mondiale, mondialisée, Netflix, quelque chose de très connu. Et là, on arrive avec nos gros sabots et donc on va nous parler donc de la transhumanité, de quelque chose de transitionnel entre l'être humain et l'animal, avec toutes les questions donc d'anthropocène, etc. Donc une fois qu'on a dit ça, donc on n'a pas vraiment encore parlé du film et pourtant déjà l'a priori est négatif. J'accélère en disant que moi, ce qui me dérange le plus, c'est que le film est un petit peu un collage de beaucoup de choses qui marchent pas beaucoup entre elles. Il y a le film de Romain Duris, il y a le film de Paul Kircher, et il y a même le film de personnages dont on se demande vraiment ce qu'ils sont venus foutre là, comme Adèle Exarchopoulos. Que fait Adèle Exarchopoulos dans le film? On peut se le demander. Est-ce qu'elle existe? Moi, je trouve pas beaucoup. Donc oui, c'est un film qui pour moi ne fonctionne jamais, qui me laisse vraiment complètement sceptique, et dont je ne partage pas du tout l'enthousiasme que je peux voir par ailleurs.
Francis, en un tweet
En un tweet, je ne pourrais pas vous réconcilier. Non, après, moi, je sais pas ce que je pourrais dire. J'aime mettre sur un autre plan, du coup. En fait, c'est un... Et c'est pas très critique de cinéma, en fait, ce que je vais dire. Du coup, comme ça, voilà.
C'est comme 15 secondes, j'espère.
En sortant de la projection, moi, je me suis senti d'un seul coup très mal à l'aise, très oppressé. Sans pour autant évidemment avoir de difficulté à respirer, sinon je serais pas là. Et en même temps complètement agressé par l'univers qui était autour de moi, qui en fait était donc les Champs-Élysées pour ne pas les nommer. Et j'ai été très surpris de ressentir ça parce que je l'ai pas du tout eu pendant le film, que je voyais à la fois comme un très beau conte avec effectivement cette idée de la forêt et la forêt qui était déjà présente dans les combattants, cette forêt de toutes les peurs et puis finalement dans laquelle on finit à un moment par oser rentrer et qui permet au bout d'un moment de d'ouvrir ses ailes au propre comme au figuré, ça sera un peu facile. Mais d'un seul coup, il y avait comme ça cette tension qui était en moi, et je me suis dit pourquoi. Est-ce que parce que le film finalement quelque part interroge la mutation du corps, la suprématie d'une espèce qui est l'espèce humaine, et la dépendance à cette suprématie des espèces animales, alors que je suis ni végétarien ni antispéciste, quoi. Et je me disais, j'ai tout ça qui était comme ça en moi d'un seul coup, et je trouvais que c'est, finalement j'avais ressenti quelque chose d'important et de fort sur ce film. Alors après, je vais faire exprès par rapport à Florent, je vais un peu parler du casting, que je trouve que effectivement si Romain Duris c'est le premier nom qui apparaît au générique, moi j'ai pas ce sentiment qu'il y a le film de Romain Duris, le film, j'ai le sentiment qu'en fait le cœur du film c'est Paul Kircher. Ça devrait être le premier nom au générique, mais Paul Kircher n'est pour l'instant pas, n'a pas la notoriété de Duris et n'a pas le même agent.
Il est brillant.
Et n'a pas le même agent que Romain Duris. Donc, voilà, négociation d'agent. Et que je défendrai Adèle Exarchopoulos parce que dans le film, oui, elle me fait beaucoup rire. Et que, enfin, pour moi, il va y avoir une réplique que je ne mentionnerai pas pour que les spectateurs à venir puissent en profiter, qui est quasiment culte après un massacre dans un haras.
Le règne animal de Thomas Cayet, c'est donc à découvrir en salle à partir du 4 octobre. En quelques mots, un petit coup de cœur, Florent.
Ouais, alors pour pas changer.
Quelque chose qui sort du cinéma, qui va nous rafraîchir un petit
voilà,
peu.
Voilà, alors pour continuer dans ma tradition, moi, quand je regarde pas de film, c'est le jeu vidéo qui m'intéresse. Donc, un jeu qui est sorti cet été, qui s'appelle Cosmic Wheel Sisterhood, qui est un jeu espagnol, donc développé par le studio Deconstruct Team, qui est un jeu qui parle d'une sorcière sur un petit astéroïde perdu, parce qu'elle a été bannie pendant 1000 ans pour avoir annoncé la fin de sa loge, ce qui a valu un scandale. Donc on est tout autour du mythe de la sorcière version Mona Chollet, avec un côté très empouvoirment, très très féministe. C'est un très très beau jeu narratif et que je recommande parce qu'il est vraiment magnifique et c'est une expérience d'une vingtaine d'heures vraiment fabuleuse.
Sur quelle console?
Alors c'est sur PC et sur Switch.
PC et sur Switch. Clément.
Lyon-Brest ce soir sur Canal+.
Merci Clément. Je te réinviterai. Francis, je te rends la parole. Merci, chères auditrices, chers auditeurs. On se retrouve donc le mois prochain et je te laisse conclure cette émission, cher Francis.
Merci Thomas, merci Florent, merci Clément. On va se quitter en écoutant donc un deuxième extrait, comme annoncé en début d'émission, d'Une maison avec un piano dedans, le nouvel album de Babix, un album 100% instrumental. Et si on a commencé en écoutant Ballerine, on va finir en écoutant Dragon gelé, qui finalement pourrait nous faire penser au règne animal. Bing. Et on va s'offrir, je parlais des ambiances musicales, ragtime ou boogie woogie, ben là on va s'offrir finalement une petite gamme pentatonique pour finir cette émission avec ce très bel album très intimiste. Et on se retrouvera par contre, bien évidemment, le 28 octobre pour notre deuxième émission de 26e saison. Voilà, vous êtes sur l'antenne de Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste. C'était longtemps Je me suis couché de bonheur, une émission proposée par Francis Gavel, présentée par Thomas Fouet et Francis Gavel, réalisée par Erwan Charton. Vous êtes à l'antenne de Radio Libertaire et on vous souhaite une très bonne journée à l'écoute de notre station.
êtes là pour ça. Et que c'est beaucoup trop. Juste une fois de trop. Et ils seront pour vous, nous deviendrons
des chiffres tombent et l'écrou se resserre. C'est l'opaque des temps, c'est la nouvelle nuit. Sur tous les écrans borgnes, la même aveugle image. Même battement sourd dans tous les écouteurs. L'arbre résiste et du cheval se cabre. Dans le ventre des mots brûle mon poivre noir. Toujours de par le monde, le même bruit qui court. La bêtise bavarde matraque et matricule. On y vend la part.